chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans cette discussion. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reconnu lundi chercher à dialoguer avec certains djihadistes, justifiant la démarche par la nécessité d'explorer toutes les voies possibles pour sortir de la crise sécuritaire. Son représentant pour le centre du Mali, Diankunda Traoré, avait envoyé le mois dernier des émissaires en direction d'Amadou Koufa et Yadagali, deux chefs de la mouvance djihadiste sahélienne affiliée à Al-Qaïda. Alors selon vous, faut-il négocier avec les djihadistes? Alors le président avait dit il est temps que certaines voies soient explorées. Et pour l'instant, donc, il s'agirait essentiellement de la mouvance liée à Al-Qaïda plutôt que de celle liée au groupe État islamique. Alors, s'il a approuvé la possibilité d'un dialogue avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc lié à Al-Qaïda, Yadagali, le président était beaucoup moins direct à propos de l'État islamique au Grand Sahara, mais il a dit ne rien exclure. Hein, une réponse sur des discussions avec Walid Al-Sarou, le chef de l'EIGS, et donc il avait dit aussi que la situation sahélienne est très préoccupante. Combattre les groupes djihadistes et dialoguer avec eux n'est pas antinomique, avait-il ajouté en invoquant les cas de figure algériens et afghans. Donc pour l'heure, il attend une réaction notamment à cette démarche. On a un auditeur en ligne. Kevin Kanyenda, bonsoir, comment ça va?
Je suis bien, enfin, merci de m'avoir écrit.
On vous écoute, Kevin.
Alors, je disais que le président Ibeka caché très bien dans sa conscience, comptait pas dialoguer avec des ennemis, comme des djihadistes, on les élimine. Mais comme il a échoué, comment gérer cette situation? Il a préféré les dialogues. Je peux prendre à titre d'exemple. Donc, par exemple, vous avez 10 enfants, le voleur vient chaque nuit tuer un de vos enfants. Il tue un, peut-être jusqu'à 7, et vous luttez, mais vous n'arrivez pas. Donc, la prochaine fois qu'il va venir, peut-être vous allez demander au voleur ce qu'il veut. En fait, c'est pour dire quoi par là? Que personne n'était accepté de dialoguer avec son ennemi. On le fait quand l'ennemi est plus fort. Vous voyez un peu ça. À mon avis, je suis contre ces dialogues car cela ne va pas changer grand-chose. Parce que ces gens vont commencer à manipuler le gouvernement malien et cela ne va pas être bien pour les pays comme le Mali. Mieux vaut dialoguer pour savoir comment mettre fin à ces attaques avec tout le monde. Faire un dialogue politique, comment gérer cette situation.
Un grand merci, Kevin, pour votre point de vue. On a, parmi d'autres commentaires sur le Facebook de VO Afrique, celui de Haruna Rossé, qui dit « En Afrique, les Africains sont aussi capables de résoudre leurs problèmes sans violence. » Quant à Madna, qui est au Tchad, il dit « Ibeka opte pour la négociation avec ses narcotrafiquants, dit-il. Quel président peut accepter de dialoguer avec un terroriste, dit-il. » Et Abdourahman Ozil pense qu'on ne peut pas dialoguer avec des gens qui ont tué des Maliens, dit-il. Un djihadiste reste un criminel, on ne peut pas leur faire confiance. Donc c'est le point de vue d'Abdourahman. Hassan Kamara, lui, il dit, peut-on négocier avec quelqu'un qui a tué plus de 1000 personnes? Quant à Kevin que nous avons eu, il vient tout juste de nous parler. Zakaria Bouraïma Gourou, nous l'avons en ligne, il est en Côte d'Ivoire, il dit qu'il pense que le dialogue est une solution, car après beaucoup d'efforts, dit-il, sur la question des djihadistes, rien n'a changé concrètement. Zakaria, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir, madame.
On vous écoute.
Comme je viens de lire mes commentaires, comme ce que je viens de dire sur mes commentaires, là. Regardez, même en Côte d'Ivoire, ici, nous avons, on a un moment, là, on a eu à faire ce débat sur la radio Côte d'Ivoire. Il y a eu des choses concernant le problème du Mali. Vous voyez, un moment même, je pense que l'État ivoirien a déployé les militaires en Côte d'Ivoire ici, pour aller au Mali. Vous voyez, jusqu'à présent, rien n'a changé concrètement. Donc, si le président malien même décide de dialoguer avec les djihadistes, non, je pense que c'est à saluer, hein, puisque demander quelque chose, bien dialoguer avec quelqu'un, ce n'est pas une signe de faiblesse. Oui. Donc, je trouve que cela, il faut dialoguer avec eux, ce qui n'est pas, et puis pouvoir résoudre ce problème. Sinon, ce n'est pas une solution. Et là, c'est devenu un problème, je te dis que c'est devenu. Ça a presque touché le continent africain. Regardez le cas, ce qui se passe au Soudan, même au Niger. Donc, moi, je préfère le dialogue. Voilà un peu ma partition.
Un grand merci, Zakaria, à partir de la Côte d'Ivoire, qui vient de se prononcer sur la question du dialogue entre le gouvernement malien, dialogue possible, hein, selon Ibeka, entre le gouvernement malien et les djihadistes. David Akumbu, qui est au Gabon, il dit sur notre Facebook, dans l'état actuel de la situation qui ne s'améliore pas, oui, il est bien de discuter avec les djihadistes pour essayer de renouer le fil du dialogue. Quant à Victoire, qui est en République démocratique du Congo, alors lui, il pose des questions. Il dit, cette négociation va-t-elle aboutir à un résultat positif? L'avenir nous le dira, bien sûr. Si le président arrive à cette étape, dit-il, c'est pour éviter des désordres. Les djihadistes étouffent la paix. Je ne sais pas, dit-il, si l'idéologie du président va rapporter la paix durable. Voilà donc des questions posées par Victoire. Quant à Falingué Touré, qui est au Mali, que nous essayons d'avoir, il dit « C'est l'une des erreurs que mon président vient de commettre, pense-t-il. Comment peut-on dialoguer avec celui qui veut toutes les institutions nationales ? D'ailleurs, je me demande si le président du Mali est au courant de leur position, dit-il. Et si le dialogue ne marche pas, qu'est-ce qui se passera dans ce pays ?» Des questions posées par Falingué Touré, qui est au Mali. On a Adama Togola, qui est également au Mali. Adama, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien, Dieu merci.
Alors, à vous la parole sur cette question.
Évidemment, le président malien a pris une initiative sanitaire et responsable en voulant négocier avec les djihadistes. Sans langue de bois, les djihadistes, loin d'être nos amis, frères, sont les bienvenus si les groupes armés séparatistes. Je m'explique. Bien avant cette crise, les Mali faisaient face aux groupes rebelles du MLA, sécessionnistes et séparatistes, qui ont éventré et égorgé les militaires maliens à Agueloc avant la chute de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Donc, si le dialogue a été possible avec eux, pourquoi pas avec les djihadistes? En refusant de dialoguer avec eux, les présidents avait pris le risque de susciter des sentiments anti-musulmans chez nous. Personne n'a dit d'accepter leurs conditions, mais de dialoguer afin de parvenir à une sortie de crise. Les États-Unis, après avoir empêché qu'ils ne négocient pas avec les terroristes, ont fini par discuter avec les talibans en Afghanistan. Le dialogue est obligatoire et nécessaire, et de toute façon, quel qu'en soit l'issue d'un conflit, on dialogue à la fin. En tant que premier responsable de la nation, aucune démarche, aucun sacrifice n'est de trop pour épargner les vies et assurer la paix et la stabilité. Si les forts négocient avec eux, pourquoi pas nous les faibles? Je pose cette question. Parce qu'à l'heure actuelle, surtout au centre du Mali, donc il y a des attaques dont chaque fois c'est les djihadistes qui réclament, qui revendiquent ces attaques. Donc il faut discuter avec eux, parler avec eux pour se mettre d'accord en vue de pacifier même le centre du pays. Donc, les forces internationales se sont déployées au Mali pour la paix et la stabilité au nord, mais on voit que c'est les djihadistes maintenant qui occupent le centre et dirigent un peu vers le sud. Donc, les interlocuteurs sont déjà connus. Il s'agit de Amadou Koufa et Yagali. Donc, je pense qu'il est tout à fait nécessaire donc, de prendre contact avec eux maintenant pour une sortie de crise.
Un grand merci Adama pour votre point de vue à partir du Mali même. Souleymane Diakité a écrit sur notre Facebook, il est au Mali également, il faut instaurer selon lui l'autorité de l'État et changer le rapport de force, ensuite faire la négociation. Voilà, donc il pense que la négociation c'est ce qui doit passer en dernier quand tout est réglé au niveau sécuritaire d'une certaine manière. Ousmane Tapsoba, lui, il dit si cela peut peut aboutir à une conciliation au Mali, c'est une bonne chose, sans aussi oublier que cette paix au Mali pourrait calmer les multiples attaques que connaît le Burkina Faso, mon pays, et le Niger, dit-il. Courage aux engagés du dialogue. Donc ça c'est d'Ousmane Tapsoba. Quant à Abdoulaye James, il trouve que c'est une bonne stratégie pour venir à bout de cette guerre asymétrique qui fait un important bilan en perte de vie humaine, dit-il. Le président a bien fait d'écouter la voix de son peuple pour résoudre le problème du terrorisme au Sahel, car la négociation pourrait porter des résultats satisfaisants dans ce combat, pense-t-il. Par ailleurs, il serait important également d'arriver à des accords durables et fiables, poursuit-il et termine-t-il d'ailleurs. Crispin Mwanza, il est à Kananga, en République démocratique du Congo. On essaie de le joindre parmi vous tous. Alors il dit, selon moi, ces dialogues n'aboutiront pas. Il suffit tout bonnement de renforcer les forces armées, les payer pour traquer et neutraliser les terroristes, comme le fait la RDC, dit-il. Ça montre l'incapacité du gouvernement malien. On a Sédou Kassongo, qui est également en République démocratique du Congo, qui pense que ce dialogue doit être sincère pour une solution durablement prospère, dit-il. Sédou, comment allez-vous?
Oui, je suis bien, merci. Bonsoir, la VOA.
Alors, quel est votre point de vue sur cette question du dialogue éventuel avec les djihadistes au Mali?
Oui, c'est comme vous l'avez remarqué sur mon poste, c'est que je soutenais la thèse d'un dialogue franc, sincère, sans toutefois avec l'hypocrisie, d'autant plus que le gouvernement malien avait déjà, dans les temps passés, entretenu le même dialogue pour pouvoir trouver la paix durable, mais malheureusement que ce dernier n'était pas beaucoup plus sincère. Donc le soft power politique, l'approche politique que l'actuel président malien met en place de pouvoir dialoguer avec ces groupes d'armée n'est pas tout de même une mauvaise approche, d'autant plus que le dialogue, c'est notre mode de vie. Et les Africains, nous mettons autour d'une même table et nous discutons des problèmes africains pour trouver des solutions africaines. Ici, je vais certainement rappeler quelque chose par rapport avec le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Félix, qui, dans ses plusieurs sorties médiatiques, à appeler à la paix, à la réconciliation, à un dialogue franc, à pouvoir stabiliser le pays, mais aussi l'Afrique tout entière. En fait, cette politique doit être suivie, engendrée aussi par beaucoup d'autres dirigeants africains. Cela ne veut pas dire que l'État n'a pas la force de traquer les forces négatives. L'État a la force de traquer les forces négatives. Cependant, l'État ne veut pas, en fait, les victimes innocentes. Pour éviter toutes les victimes innocentes, il faut, de toutes les façons, chercher à dialoguer avec les groupes qui déposent leur cahier des charges et que le gouvernement malien trouve de la mesure possible pour...
C'est d'où, justement, je voudrais vous poser une question, puisque vous faites la comparaison très rapidement, répondez-moi, avec la RDC. Est-ce que, si votre président proposait de dialoguer, par exemple, avec les ADF Nalou, qu'est-ce que vous en penseriez, avec les ADF?
Déjà, le président de la République, lorsqu'il était parti à l'est du pays, il avait fait l'appel. Il a demandé d'abord à la réduction volontaire. Donc, c'est déjà une avancée aussi significative. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de seigneurs qui viennent déposer les armes de manière volontaire. Et cela ne veut pas dire que nos forces armées ne continuent pas de combattre. Elles sont là, et elles enregistrent des victoires ces derniers temps, et les bastions des ADF ont été récupérés. Et ce qui semble être aussi beaucoup plus important, c'est que son appel à la paix, à la réduction volontaire, est suivi par les groupes d'armée.
Merci beaucoup, Seydou. Un grand merci pour votre point de vue sur cette question. On a Mamadou qui est à New York et lui, il est également pour le dialogue avec les djihadistes. Mamadou, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir à vous et bonsoir à l'ensemble des auditeurs. Bon, cette fois-ci, vraiment, je soutiens la démarche d'Ibeka, qui consiste à aller sur la table de négociation avec ces terroristes. puisque nous devons savoir que l'ultime arme ou l'ultime stratégie pour faire taire les armes sur le continent, il faut toujours avoir un dialogue. Et qui dit dialogue, certainement le dialogue va déboucher sur des accords. Il faudrait que ces accords-là vraiment soient sincères, francs et que ces accords soient appliqués. Donc nous savons tous qu'il y a tout un arsenal et des effectifs pléthoriques sur le Sahel, mais quand les terroristes décident, ils peuvent frapper n'importe quand et n'importe où. Donc cela n'a pas empêché la guerre de continuer et d'allonger la liste des victimes. Donc il faut essayer encore avec le dialogue. J'espère que très bien que ce dialogue-là va aboutir, va faire régner le paix dans le Sahel. Ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, nous devons savoir que ces terroristes-là, ils ne sont pas... Le terrorisme, c'est... Il y a une cause qui fait que ces gens-là se radicalisent et optent pour les armes afin de se faire entendre. Donc, il s'agit maintenant de les écouter et d'aller avec eux sur la table de négociation, faire des propositions concrètes qui sont sincères et que cela vraiment puisse être appliqué dans l'intérêt de tous.
Un grand merci Mamadou Lamranba. Oumar Diallo, alors il pose une question, il dit que toute négociation doit déboucher sur une compromission. Sur quel compromis Ibeka veut-il aboutir? Est-ce un pacte de non-agression en échange d'une application de la charia dans les territoires occupés ou bien servir de base arrière pour déstabiliser les autres pays ou encore accepter une sécession du territoire? Je crois que nous avons Oumarou justement en ligne qui est au Burkina Faso. Très bonne question de la part d'Oumarou. Bonsoir, comment ça va?
Oui, ça va chez vous.
Ça va très bien, on vous écoute.
Oui, concernant cette question de négociation, je suis un peu perdu. C'est le contenu même qui me taraude un peu l'esprit, parce que ça serait difficile avec les djihadistes. Voilà. On va s'entendre sur quoi? Est-ce qu'on peut aboutir, déboucher sur une entente? Voilà, une entente prenant en compte les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire les deux parties. Voilà, c'est la question que je me pose, quoi. Voilà, et je ne me retrouve pas, je ne sais pas si les deux parties pourront le faire. Parce que tout le monde sait que dans une négociation, les deux parties veulent tout faire pour que leur intérêt soit pris en compte. Voilà. Est-ce qu'on pourra aboutir à une négociation un pacte qui peut prendre en compte tout cela? Voilà. C'est ce que je me suis posé comme question en première ligne. Et puis aussi, il faut souligner le fait que le problème du djihadisme, ça ne touche pas le Mali seulement. Ça touche presque tous les pays voisins du Mali, le Burkina, le Niger. Voilà. Est-ce que ça va se faire en synergie d'action avec ces pays ou bien ça va se faire sans ces pays-là? Parce que le Mali peut engager des négociations et que ça peut aboutir sur quelque chose de concret. Mais quand tous ces pays-là, comment sera cette entente-là entre le Mali et ces djihadistes-là? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais me poser comme question-là.
Un grand merci, Oumar, pour ces excellentes questions. Vous n'êtes très certainement pas le seul à vous les poser. C'est vraiment des bonnes questions qui permettent de développer cette discussion. On a Aziz Younga qui est également au Burkina Faso. Aziz, bonsoir, comment allez-vous?
Oui, ça va bien. Bonsoir, bonsoir, les auditeurs.
À vous la parole.
Oui, moi, je suis pour le dialogue dans le camp malien. Parce que tout simplement, bon, du fait que les deux protagonistes sont un peu définis, on sait qui sont ceux qui attaquent le Mali depuis un certain longtemps. Donc, on voit que on sait aussi ce qu'ils réclament. Donc, moi, je pense que dès que tous ces trucs-là sont affichés, il y a lieu de dialoguer et puis s'attendre pour un point donné. Voilà, sinon, tant que concernant la lutte du terrorisme, moi, je pense que toutes les pistes sont permises, y compris celle-là du dialogue.
voilà, pour arrêter le massacre de la population civile ainsi que militaire. Donc, bon, moi je pense dans le camp malien, et le fait même que les terroristes ont affiché et leur volonté, ils ont montré leurs revendications, ils savent ce qu'ils ils veulent, ils savent les donations qu'ils veulent. Bon, et puis, ces gars-là sont un peu, sont définis, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés, on connaît ceux qui les attaquent, on connaît leurs chefs. Donc, je pense que bon, tous ces éléments-là sont réunis, bon, le dialogue est permis, quoi. Voilà. Mais tant que bon, on ne connaît pas ceux qui nous attaquent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils veulent attaquer comme ça, comme par exemple dans le cas de notre pays, au Burkina Faso. Bon, on ne sait pas avec qui dialoguer, on ne sait pas ce qu'ils disent, on ne sait pas ce qu'ils revendiquent. Parce que beaucoup de fois, on a subi des attaques ici qui n'ont pas été revendiquées. Donc, bon, dans ce contexte pareil, c'est un peu compliqué de poser le problème du dialogue. Donc, mais pour les Camerounais, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense que vraiment, toutes les pistes sont permises. Voilà, pour arrêter les massacres.
Merci beaucoup, Aziz, hein, pour cette comparaison vraiment intéressante avec le Burkina Faso, hein, en ce qui concerne l'identification, effectivement, de l'agresseur. On a Eric qui est en Afrique du Sud. Bonsoir, Eric, comment allez-vous?
Bonsoir à tous les auditeurs de la Voix Africa. Je réponds aussi très bien.
Un grand merci à vous, la parole.
Oui, je pense que le président Boubacar Keïta doit privilégier plus le dialogue parce que l'armée malienne est incapable jusqu'à présent, malgré tous les moyens mis en œuvre et certaines interventions d'autres armées, par exemple l'armée française, ils sont toujours incapables d'assurer l'autorité de l'État dans l'ensemble du pays. Voilà pourquoi il est important de privilégier le dialogue, de parler avec tous ces terroristes-là qui déstabilisent la région du Sahel et tous ceux qui déstabilisent même le territoire malien.
Un grand merci. Oui, vous avez quelque chose à ajouter rapidement, Eric?
Oui, mais c'est là aussi le gouvernement malien doit, dans ce dialogue-là, doit faire appel aux pays voisins qui sont aussi déstabilisés par ces terroristes, là, de s'asseoir sur une table, en fait, de trouver des solutions qui pourraient garantir une paix durable dans la région et dans tous les pays voisins.
Un grand merci, Eric. Avant de prendre Alphonse, je vais citer Olivier qui est au Cameroun. Olivier, il pense que le dialogue est une bonne chose, mais dit-il, le problème est que le Mali est un pays laïque, donc le respect de la laïcité est mieux. Pour moi, il négocie pourquoi et pour quel objectif. Olivier, donc, qui est contre la négociation. On a donc Alphonse en RDC. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À vous la parole, Alphonse.
Je pense que cette démarche est à soutenir. Vous savez, on doit accepter toute une option. Hein. On ne peut pas se contenir seulement, camper seulement sur l'option de guerre ou l'option économique pour pouvoir mettre fin au gabisme. Mais les négociations aussi peuvent être porteuses de fruits. Vous savez, ici, chez nous, en Nord-Congo, il y a Azaria Sirivé, le premier ministre de l'administration du territoire, il était un ex-rebelle, il était dans un mouvement rebelle, RCD, avec le président du Sénat, Alexis Kandemamba. Mais ce mouvement séditieux s'est lié en parti politique après les négociations. Aujourd'hui, ils sont partis fous, ils travaillent dans le gouvernement. Donc, ce n'est pas du tout ce n'est pas à exclure que les anciens hommes de guerre, les seigneurs de guerre, ou bien les gars devenir un jour des hommes pacifiques qui travaillent politiquement pour l'intérêt de leur nation. Et donc je pense que Amadou a tout ça et puis Yamagali.
Alphonse, un grand merci. Vous êtes le dernier auditeur de cette émission. À votre avis, un grand merci à Michel Joseph et Joselle Morissin à la production. À vous toutes, chères auditrices, à vous tous, chers auditeurs. Très bonne soirée pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique.
VOA Afrique.